par actualité. Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous en ce 7 décembre 2016? Clotilde Seille vous accompagne sur les ondes de Canal M pour la prochaine demi-heure et pour vous présenter les paractualités. Avec aujourd'hui en titre, la Société canadienne du cancer rappelle que le Québec s'est doté du plan le plus complet au Canada en termes de soins palliatifs, mais qu'il faut continuer d'en faire plus en la matière. Les adultes Asperger, ces géants aux pieds d'argile. 6 capsules vidéo représentant les belles histoires associées à des projets de Lanaudière. Le CHUS à Sherbrooke donc part en guerre contre la douleur chronique. Et puis du fauteuil roulant au culturisme et des jeux vidéo pour soulager les douleurs du membre fantôme de 14 personnes amputées d'un bras. Également deux interventions aujourd'hui, deux entrevues téléphoniques. D'abord avec Lynn Tifo, directrice générale de la Société de transport de l'Outaouais, le STO. Et puis Chloé Melançon, coordonnatrice aux communications pour l'Association des camps du Québec. Alors, à l'approche du premier anniversaire de la mise en œuvre de la loi concernant les soins de fin de vie et du dépôt par le ministre Gaëtan Barrette du plan de développement 2015-2020 soins palliatifs et fin de vie, la Société canadienne du cancer, la SCC, rappelle que le Québec s'est doté du plan le plus complet au Canada en termes de soins palliatifs, mais qu'il faut continuer d'en faire plus en la matière. Il y a un an, la SCC avait applaudi l'instauration du droit aux soins palliatifs pour tous et salué les ambitions. Objectifs du plan. La SCC constate aujourd'hui des avancées, mais elle est inquiète du retard pris dans la réalisation des mesures proposées. Les promesses faites aux patients et à leurs familles doivent être tenues dans les plus brefs délais. Lancé dans l'enthousiasme général et avec l'appui du milieu, le plan de développement 2015-2020 soins palliatifs et de fin de vie était accompagné d'une mesure phare, 4,5 millions de dollars par année pour une allocation répit destinée aux familles qui prennent soin d'un proche en fin de vie à domicile, soit l'équivalent de 1 000 dollars par famille, ce qui représente jusqu'à 35 heures de répit à domicile offert par des professionnels. Nous étions présents lorsque cette mesure a été annoncée en grande pompe en novembre 2015, mais elle n'était pas au rendez-vous lors du budget en mars 2016 et ne semble toujours pas mise en œuvre. Et pendant ce temps, les proches aidants sont à bout de souffle, relève Suzanne Dubois, directrice générale de la SCC, division du Québec. Les adultes Asperger, ces géants aux pieds d'argile, on les appelle autistes de haut niveau ou autistes savants, car pour une raison qu'on ignore, leurs capacités intellectuelles sont le plus souvent impressionnantes. Mémoire encyclopédique, compréhension cristalline de la réalité, on pourrait dire que ce sont des autistes manqués. C'est un texte d'Émilie Dubreuil auquel je me réfère sur le site de Radio-Canada. Comme si l'autisme n'avait pas réussi à subjuguer leurs capacités intellectuelles, résume le psychologue Normand Giroux. Mais cet important panache cognitif repose sur une fragilité toute particulière. S'ils sont plus performants que les gens, entre guillemets, normaux intellectuellement, les autistes Asperger sont des handicapés émotifs. « Je suis une daltonienne de la vie », résume Anne-Marie Lacharité, 34 ans, qui travaille en design graphique à Montréal et qui vient de recevoir ce diagnostic. C'est une métaphore éloquente, comme ceux à qui la plupart des couleurs sont une abstraction. Les autistes Asperger ne peuvent pas lire les émotions. En fait, si une personne neurotypique ou normale peut décoder jusqu'à 75 émotions, les personnes qui ont le syndrome d'Asperger sont limitées à 7. Il en résulte une difficulté à être littéralement dans le monde. Ils sont dans une sorte de quête identitaire, de dire Normand Giroux, psychologue. Un jour, ils tombent sur la piste Asperger et là, il y a une sorte de révélation. À partir de là, ils vont chercher la confirmation. Il en résulte 19 fois sur 20 qu'ils avaient raison. Allons voir un petit peu comment ça se passe ailleurs, hein? Pas toujours à Montréal et dans les régions que nous connaissons bien. Tiens, allons voir en Outaouais comment ça se passe au niveau de la Société de transport de l'Outaouais. C'est donc la STO. J'ai au bout du fil Lynn Tifo, qui est directrice générale de la STO. Bonjour, Madame Tifo.
Bonjour, Madame Tsai, merci
alors,
de me recevoir.
Mais je vous en prie, Madame. Alors, d'ici 2019, la Société de transport de l'Outaouais, la STO, souhaite que 64 % de ses autobus soient munis d'une rampe d'accès déployable pour améliorer l'accessibilité. Évidemment, quand nous avons vu cette information et entendu cette nouvelle, on s'est dit, il faut à tout prix qu'on les contacte. Alors, expliquez-nous.
Bon, bien entendu, tout ça s'inscrit dans un plan plus général d'accessibilité. À la STO, je vous dirais que c'est depuis le début des années 2000 qu'on s'intéresse plus particulièrement au dossier de l'accessibilité universelle. Donc, on a adopté notre premier plan en 2009-2015. Nos premiers autobus à plancher bas sont arrivés en 2002, mais c'est en 2009 là, qu'on a commencé à avoir des autobus avec une rampe qui se déploie de façon à pouvoir accueillir facilement les gens qui sont en fauteuil roulant, les gens qui sont en poussette et le reste. Donc, pour nous, c'est important par la suite de les mettre en service sur des lignes où ils vont trouver des usages importants. C'est-à-dire qu'on a commencé à les déployer en 2009 sur les lignes où on retrouvait peut-être des nombres plus grands de personnes à mobilité réduite qui trouvaient intérêt à utiliser ces services-là. Donc, depuis 2009, on a accru le nombre de lignes qu'on rend accessibles à notre clientèle. On en a 6 sur notre réseau régulier, puis 3 en période de pointe. Donc, ça commence à être un réseau important qui est accessible pour l'ensemble de notre clientèle. Parallèlement avec ça, bien entendu, on s'adresse à l'ensemble de nos clientèles qui ont des besoins particuliers. Donc, je vous dirais, entre autres, au début des années 2000, on a aussi mis en place tout un programme d'apprentissage du transport régulier pour une clientèle qui a une déficience intellectuelle.
Okay.
Donc, on travaille avec nos organismes du milieu pour que ces gens-là puissent apprendre à faire leurs déplacements récurrents en transport en commun régulier. Et je vous avoue que ce programme-là a un grand succès depuis le début des années 2000. On a beaucoup de gens qui ont une déficience intellectuelle qui se déplacent maintenant dans nos autobus réguliers. Par ailleurs, eh bien, on a aussi développé toute une trousse d'apprentissage au transport en commun régulier pour les clientèles, par exemple, aînées, nos clientèles avec une mobilité réduite. On se déplace, entre autres, dans des centres où il y a des concentrations de personnes âgées et de personnes à mobilité réduite pour faire l'apprentissage avec eux, le faire en mode réel. On amène souvent des autobus, on déploie la rampe pour qu'ils puissent tester tout ça.
Oui.
Donc, pour nous, ça occupe une place importante. Je vous dirais que c'est notre plan d'accessibilité 2009-2015 est aussi une trame de fond dans le développement de notre plan stratégique 2016-2025. Donc, on est sur le point de doter notre plan stratégique, mais notre plan d'accessibilité, c'est une trame de fond à tout ça.
Quand on parle d'accessibilité universelle à Ottawa, est-ce que c'est à des heures précises ou est-ce que c'est aux mêmes heures que tout le monde? Parce que je vois ici à Montréal, souvent, il y a par exemple un bus sur trois qui est accessible.
Ouais. En fait, les lignes qu'on vous annonce accessibles actuellement, là, on a 6 lignes accessibles qui sont accessibles en tout temps. Et par la suite, on a des lignes avec des concentrations en période de pointe qui sont offertes avec des autobus articulés et qui ont 2 places pour des personnes, par exemple, en fauteuil roulant ou des poussettes. Donc, ça, c'est en période de pointe. Mais on a des lignes qui sont accessibles en tout temps. Bien entendu, on est toujours dépendant de la disponibilité de nos véhicules pour être en mesure d'offrir ce service-là. Donc, à mesure qu'on introduit dans notre parc autobus de nouveaux autobus accessibles avec rampe, bien ça nous permet de rendre de nouvelles lignes accessibles en tout temps.
Mais en ce moment, vous diriez que le pourcentage de transport en commun accessible, donc de bus à Ottawa, il est de combien à peu près?
On a environ 43 % de nos autobus qui sont avec rampe. On en a 82 % qui sont à plancher bas. Donc, pour une accessibilité, pour une clientèle sauf fauteuil roulant, mais des personnes à mobilité réduite, on en a 82 %
Est-ce que vous avez l'impression aussi, Madame Tifo, Lynn Tifo, est-ce que les chauffeurs, par exemple, de bus, est-ce qu'on leur enseigne comment traiter les gens à besoins spécifiques, quoi?
Exactement, c'est ça. C'est sûr qu'on a une formation particulière à l'ensemble de nos chauffeurs pour l'utilisation de la rampe, comment l'utiliser avec les personnes qui ont des besoins spécifiques. Et c'est de même pour d'autres types de besoins spécifiques, parce que bien entendu, quand on parle d'accessibilité universelle, on parle autant des familles que des gens qui ont des problèmes de visibilité, comme des problèmes auditifs. Donc, l'ensemble de ces éléments-là sont enseignés à nos chauffeurs. D'ailleurs, on leur demande aussi de nous rapporter tout usage qui est fait de la rampe par des personnes en fauteuil roulant pour avoir, nous, un peu l'évolution de la statistique, comment ça se passe et voir comment se développent les besoins. Donc, ça, ça fait partie de leur formation. Puis c'est de même aussi pour, évidemment, les conducteurs du transport adapté.
Madame Tifot, toutes les mesures dont vous nous avez parlé pendant cette entrevue, ça fait partie de ce que vous appelez le système d'aide à l'exploitation et information voyageurs pour le transport adapté, ou c'est autre chose?
C'est autre chose.
Ah, alors expliquez-nous.
C'est notre plan d'accessibilité, puis peut-être un petit élément que je dois ajouter, c'est que ce plan-là a été développé, notre dernier plan 2009-2015, a été développé en grande concertation avec nos partenaires du milieu, donc avec la ville de Gatineau, avec tous les organismes là, qui s'occupent de ces besoins spécifiques. Là.
J'imagine.
Pour nous, c'est important pour le développement futur. Et c'est ces gens-là qui vont suivre aussi l'évolution, comment on rencontre là, à chaque année de l'évolution. Mmh. Pour le système d'aide à l'exploitation, information voyageur, on en a deux, en fait. On en a un qu'on est en train de mettre en place sur notre transport collectif régulier. Ce système-là va permettre d'avoir l'annonce des prochains arrêts, par exemple. Donc, pour les personnes qui sont à bord des véhicules, que ce soit...
Non-voyantes.
L'affichage dynamique, c'est ça, l'affichage dynamique et les annonces vocales. Donc, ça va faciliter. On a tous et puis tout ça sera en temps réel. Donc, par les différents outils d'information mobile aussi, les personnes sont en mesure de savoir à quelle heure vont passer leurs prochains autobus. Donc, ça leur permet de faciliter la vie. On est en train d'implanter également un système d'aide à l'exploitation au niveau du transport adapté. Pour nous, c'est une grande révolution par rapport à ce qu'on a actuellement, en ce sens que ça va permettre un service beaucoup mieux adapté aux personnes à mobilité réduite qui utilisent le transport adapté. Je vous dirais que un des principales embûches pour ces clientèles-là, c'est de devoir faire des réservations à l'avance.
Mais
système de transport adapté. Donc, ce nouveau système-là va nous permettre tout au moins de répondre à un certain nombre de besoins de dernière minute, des gens qui ont des urgences de dernière minute, donc ça va nous faciliter la vie de ce côté-là. Aussi, ça va nous permettre de faire un appel à l'avance à chacun des usagers avant l'arrivée imminente de leur véhicule pour qu'ils puissent se préparer, parce que les horaires peuvent varier.
Mais oui, bien sûr. Mais donc, écoutez, on connaît ça. Que ce soit à Ottawa, Montréal, partout, malheureusement, sont... Donc, à ce moment-là, pareil. Parce que souvent, c'est vrai ce que vous dites, les gens sont obligés, lorsqu'ils sont à mobilité réduite, ils sont toujours obligés de penser, ah bon, ben alors c'est tel jour que je vais aller faire telle course, c'est tel jour. Ben oui, mais si à un moment donné, il arrive n'importe quoi, voilà quoi. Alors,
ça n'enlèvera pas le principe de base de réserver à l'avance, mais ça va permettre plus de flexibilité pour les besoins de dernière minute. Et puis ça, c'est quelque chose que nous réclame beaucoup cette clientèle-là. Bon. Donc, c'est un élément important.
Madame Tifot, je vais être obligée d'interrompre cette conversation parce qu'on pourrait encore s'en parler longtemps.
Oui.
Mais ce qu'on retient, c'est que ça bouge au STO et qu'on fait des efforts.
Tout à fait. Alors, c'est dans nos priorités.
Alors, bravo, madame. Félicitations et je vous souhaite une très belle fin de journée.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Bonne journée à vous.
Par actualité régionale, maintenant, ça nous vient de l'Hebdo Rive-Nord, souhaitant démontrer toute l'importance des logements sociaux et communautaires. Quatre organismes régionaux se sont alliés pour présenter 6 capsules vidéo présentant et représentant les belles histoires associées à des projets de la Naudière. Réalisés par le cinéaste David Gascon, les 6 capsules ont permis d'explorer 6 projets bien différents qui répondaient à divers besoins. La première capsule présentée parlait de Liliana, qui a pu profiter du soutien de Propulsion. Grâce à l'aide qu'elle a reçue, celle-ci vit aujourd'hui dans un logement autonome, ce qui n'aurait peut-être jamais été possible sinon. La vidéo montrant aussi Solange, 65 ans, résidente à la Symphonie du Boisé, a quant à elle marqué le réalisateur. Profitant d'un appartement bien grand et moins cher que ce qu'elle avait ailleurs, elle est aujourd'hui délivrée d'un stress financier important depuis qu'elle a mis les pieds dans ce logement communautaire. Les autres capsules ont porté sur la coopérative Bellevue à Berthierville, d'un jeune couple devenu parent très tôt et qui ont bénéficié de l'aide du projet Jeunes parents et des logements offrant les services à adapté à un maintien à domicile pour les personnes avec un handicap physique important proposé par l'organisme Les Amandiers. Voilà, le projet Défi Logis Lanaudière a fait l'objet d'une vidéo également qui permet à de jeunes adultes avec des déficiences intellectuelles légères ou moyennes de pouvoir vivre seuls en appartement avec un encadrement. Et puis Vincent Lambert écrit dans le journal Estrie Plus, plutôt sur le site internet estrieplus.com. Pour plusieurs personnes, la douleur chronique est une torture et une bataille quotidienne. Il s'agit d'une spirale de douleur qui représente un grand défi. Les investissements de 8,9 millions de dollars en recherche au centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke permettront de trouver une façon d'améliorer la qualité de vie des personnes souffrantes. La douleur n'est pas une personne, donc nul n'est censé souffrir. Par contre, il faut comprendre que plusieurs personnes pourraient un jour développer des douleurs chroniques, chose que je ne souhaite pas d'expliquer, Monsieur Sarret, qui est neurophysiologiste au CHUS. La douleur touche 20% de la population mondiale et c'est énorme. Il faut noter que 80% des consultations faites aux urgences et près des médecins sont reliées à des douleurs. C'est un phénomène complexe sur lequel donc le CHUS va se pencher. Chloé Melançon, à qui je vais m'adresser maintenant, est coordonnatrice aux communications pour l'Association des camps du Québec. Bonjour, Madame Melançon.
Bonjour.
Alors, on parle là d'un volet qui s'appelle « Vers une intégration réussie pour accueillir les enfants à besoins particuliers dans les camps ».
Oui, exactement. Dans les camps de jour, les camps de vacances au Québec, on veut faciliter, dans le fond, le processus et pour les parents qui ont des enfants avec des besoins particuliers et pour les camps qui vont les accueillir pour que ça se passe le mieux possible pour tout le monde et que tout en ressorte avec une expérience positive.
Et ça, c'est évidemment la mission de l'association, donc la Sécu. Et qu'est-ce que vous offrez comme type de service alors pour améliorer tout ça,
Mais
Madame Melançon?
Dans le cadre de ce projet-là, pour une intégration réussie, nous, on offre des outils en deux volets. On a des outils pour les parents qui souhaitent inscrire leur enfant dans un camp. Donc, on leur explique, premièrement, quelles sont toutes les questions légales, dans le fond. Quels sont leurs droits par rapport à l'intégration de leur enfant? Puis ensuite, comment faire la demande à un camp pour s'assurer que le camp soit au courant de toutes les petites choses qui vont pouvoir aider à améliorer l'intégration de leur enfant au sein d'un groupe, puis aussi que ses besoins soient rencontrés. Donc, on s'occupe bien de cet enfant-là en fonction de ses besoins particuliers. L'autre volet du projet, nous, c'était destiné aux camps au Québec, mais ça peut être utilisé par tous les camps francophones à travers le monde. C'est disponible gratuitement sur notre site. C'est des outils qui permettent aux camps, dans le fond, de mieux s'outiller pour accueillir ces enfants-là. Parce qu'on s'entend que il y a certains types de besoins particuliers, comme par exemple des TDAH, qui sont très, très courants. Mais il y en a d'autres, par exemple, que ça peut être la première fois qu'un camp accueille, par exemple, un enfant avec le spina bifida. Donc, on a préparé des fiches pour toutes sortes de besoins particuliers pour aider les camps à mieux les accueillir. Donc, comment reconnaître ces enfants-là? S'assurer d'adapter ces activités pour bien les intégrer, puis les aider dans leur estime de soi, la relation avec les pères, la relation avec l'adulte, puis en activité.
Quel genre d'outils, alors, concrètement, quel genre d'outils proposez-vous?
Bien, on a l'outil principal, c'est des fiches, dans le fond, pour différents types de besoins particuliers. Là, on va, par exemple, j'ai parlé de spina bifida, mais on parle aussi de troubles du spectre de l'autisme, de santé mentale, de déficiences diverses. Puis on a aussi des outils pour les camps, comme par exemple des fiches d'inscription qui sont plus inclusives, donc qui permettent de mieux aller chercher quels sont les besoins des enfants. Des formulaires d'évaluation pour qu'un camp puisse s'auto-évaluer leur capacité à accueillir divers types de besoins dans la situation actuelle. Comment adapter son environnement pour que ça soit accessible aux fauteuils roulants. Toutes sortes d'outils comme ça que les camps peuvent utiliser pour se mettre à jour puis être vraiment en mesure d'accueillir ces enfants-là le mieux possible.
Madame Melançon, j'imagine que si on a été, entre guillemets, obligé de créer cela, c'est parce qu'il y a eu des problèmes auparavant.
En fait, c'est pas nécessairement des problèmes, mais plus une demande. Les camps se tournaient vers nous, puis c'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Ils nous disaient, on a telle situation, on n'est pas trop équipé, qu'est-ce qu'on fait? Puis aussi un souci de avec les droits de la personne, mais ces enfants-là ont droit à des services, puis les camps veulent y répondre, mais ne savent pas toujours comment s'y prendre.
Mais non, c'est ça.
Donc, on a décidé d'aller à l'avant de tout ça, pas attendre qu'il y ait des gros problèmes, puis vraiment offrir les outils pour que tout le monde puisse le faire le mieux possible déjà.
Alors, dites-moi, il y en a combien de camps comme ça au Québec qui accueillent des jeunes?
On a un certain nombre de camps qui se spécialisent dans l'accueil d'enfants avec des besoins particuliers. En fait, enfants et certains prennent aussi clientèle adulte. Mm-hmm. Par contre, tous les camps au Québec doivent accueillir des enfants avec des besoins particuliers si les parents font la demande et que le camp est en mesure de les accueillir.
C'est ça. Mais donc, à ce moment-là, on mélange.
On mélange, oui,
les
ça.
Enfants qui n'ont pas de, qui sont pas des cas particuliers à d'autres. C'est bien
c'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intégration. Donc, quand on parle de l'intégration réussie, c'est quand un enfant va intégrer un camp qui est, entre guillemets, régulier. Puis, donc, il n'y a pas de spécialité nécessairement.
C'est ça. Parce que moi, je me mets à la place. Je ne suis pas la maman d'un enfant qui aurait des besoins particuliers. Mais je me mets à la place d'une maman comme ça. Je me dis, forcément, si je laisse mon enfant, par exemple, qui souffre de TDAH, ou, je me dis, mais est-ce que le jeune garçon qui est là, qui a l'air tout droit sorti des jupes de sa mère, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de jeunes animateurs dans les camps, on a quoi se poser des questions et se dire, est-ce qu'il est vraiment préparé à pouvoir aider mon enfant?
D'où les outils qu'on propose dans notre trousse. Il y a une partie des outils pour les parents, donc pour les aider à bien identifier qu'est-ce qu'ils doivent dire au camp comme information pour que le camp soit au courant. Parce que on sait que les parents connaissent très, très bien leur enfant, leur dossier médical, leurs besoins, qu'ils soient psychologiques ou physiques ou de santé. Mais il faut les communiquer au camp. Donc ça, c'est l'étape du côté des parents. Du côté du camp, leur responsabilité, c'est de se familiariser, dans le fond, avec ce dossier-là. Donc nous, on leur fournit les outils pour qu'ils puissent éduquer les animateurs qui, sans qu'ils deviennent des spécialistes, par exemple, de l'épilepsie, puissent être en mesure d'accueillir un campeur épileptique puis de s'en occuper comme il faut.
Qu'est-ce qu'on fait en cas de crise ou qu'est-ce qu'on ne fait pas?
Qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser les crises? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les prévenir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'enfant à se sentir bien dans le groupe et pas être gêné non plus? On couvre toutes ces choses-là.
Est-ce que vous proposez d'autres services dont nous n'aurions pas parlé, Mme Melançon?
Ben, à l'Association des camps du Québec, nous, on offre des services en général aux camps à travers le Québec.
D'accord.
Plus spécifiquement aux camps qui sont membres chez nous, les camps certifiés, qui sont des camps qui répondent à une soixantaine de normes de qualité et de sécurité.
D'accord. Bon, ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour.
Ben oui, mais si je peux simplement rajouter, on offre aussi des services aux parents qui recherchent un camp. Donc, on a un moteur de recherche pour les aider à trouver le camp qui répond à leurs besoins.
Et l'adresse, le lien?
www.camp, avec un S, donc C-A-M-P-S, .qc.ca.
OK. Eh bien, c'est voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie.
Ça me fait plaisir.
Vous savez, vous en allez. Il n'y a aucun doute, Chloé Melançon. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice aux communications pour l'Association des camps du Québec. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
Je vous en prie. Bonne journée. Par actualité nationale et internationale, du fauteuil roulant au culturisme, le combat d'Éric Mourant contre la polio. Éric Mourant dirige maintenant la Corporation de développement économique du Grand Moncton 3+. Mais ça ne partait pas comme ça pour M. Mourant. On estime à 11 000 le nombre de personnes au Canada, en majorité des jeunes enfants, qui se sont retrouvés paralysés en raison de la polio entre 1949 et 1954. Et M. Mourant faisait partie de ces jeunes-là. Les symptômes se sont fait durement ressentir à l'adolescence. Il se souvient et nous dit « Mes jambes et mes pieds étaient difformes, ça me posait des problèmes pour marcher et ça me causait beaucoup de douleurs. » Il est allé voir un chirurgien à Laval lors de ses études et lorsqu'il était sur la table, à un moment donné, le chirurgien lui a dit « Depuis quand tu as la polio ?» Et il n'avait absolument aucune espèce d'idée de ce que c'était. Il a alors su que ses problèmes avaient un nom. 4 ans plus tard, il était de retour à l'hôpital pour une opération des jambes, mais ce fut la première d'une longue, longue série et de douleurs intenses aussi. Mais il s'en est sorti et par la suite, Éric Mourant s'est inscrit à une école de mannequinat à Bathurst. Et figurez-vous qu'ils ne l'ont pas pris parce qu'il était trop maigre. Alors ils lui ont dit, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était apprendre à marcher droit, à se présenter après avoir eu les jambes croches si longtemps et avoir subi autant d'opérations. Alors comme ils lui ont dit qu'il était trop maigre, il s'est lancé dans le culturisme et là, il a persévéré à un point tel qu'il est plusieurs fois monté sur un podium lors de compétitions provincial. Alors bon, maintenant il est rendu adulte, il a à nouveau quelques difficultés pour se mouvoir. Il dit que ses capacités sont limitées, mais qu'il apprécie beaucoup plus évidemment les bénéfices qu'il a présentement et surtout qu'il a eu, mais qu'il ne tient rien pour acquis. Il dit: je vois l'avenir avec optimisme pour moi et la région. À l'international, une expérience utilisant la réalité augmentée et des jeux vidéo a permis de soulager les douleurs du membre fantôme de 14 patients amputés d'un bras. Et c'est ce que montre une étude publiée vendredi. C'est un article qui nous vient de l'AFP, ce qui me permet de vous dire que j'ai oublié de vous mentionner que je vous ai lu le précédent article d'après un article de Simon Delacle dans Acadie Nouvelle. Alors donc, retour à cette expérience. Les patients suédois et slovènes ont notamment été invités à utiliser leurs membres amputés pour conduire une voiture dans un jeu vidéo de course automobile. À la fin des 12 séances de l'expérience, l'intensité de leur douleur avait diminué de 32% et la fréquence de ces douleurs avait baissé de 61% pendant le sommeil et de 43% pendant la veille, selon l'étude parue dans la revue médicale britannique The Lancet. Sur les 4 patients traités par antidouleurs, 2 ont par ailleurs nettement réduit les doses de leur traitement. Les améliorations persistaient 6 mois après la fin de l'expérience, pardon, ajoute l'article. Cette méthode permet de réactiver des zones du cerveau utilisées pour bouger le bras avant l'amputation, ont constaté les auteurs. Ces résultats doivent être confirmés par un essai clinique où les patients sont répartis dans 2 groupes, recevant par tirage au sort l'un le traitement et l'autre le placebo. Un article paru dans la Nouvelle Union. L'autre fabrique qu'on a jusqu'à cet été connue sous le nom de Centre pour handicapés physiques des Bois-Francs exposera les produits qu'elle fabrique dans son atelier de la place communautaire Rita Saint-Pierre et son atelier de la rue de Courval. L'exposition, une expo-vente en fait, prendra place dans le mail de la grande place des Bois-Francs, tout près du kiosque de l'Auto-Québec, du 12 au 18 décembre. Le public pourra prendre la mesure de tout ce que les personnes vivant avec un handicap fabriquent dans les 2 sites de l'autre fabrique des pièces en rotin et une 40aine de modèles différents de petits meubles utilitaires en bois, de tilleuls comme des armoires, des pharmacies, des tables, etc. Il y a 2 ans, Jean Gosselin s'amenait à la direction générale de l'organisme à but non lucratif né il y a 42 ans, entre les mains entre autres de Nicole Rousseau, elle-même vivante avec un handicap. Ayant pris sa retraite de l'enseignement à l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie, après 34 ans, M. Gosselin a tôt fait de trouver trop plate sa nouvelle vie sans travail. Alors l'envie de travailler, la tête pleine d'idées et de projets, le goût de s'engager et de mettre à profit sa longue expérience à enseigner l'ébénisterie, à guider les étudiants dans le lancement de leur affaire et les contacts qu'il a pu établir avec les entreprises, l'ont incité à se remettre au boulot. Et la découverte de ce centre, l'autre fabrique, surtout des gens qui y travaillent, l'ont absolument enthousiasmé. L'autre fabrique vend ses produits dans sa vitrine du 11 rue de Courval et à un magasin comme La Ferté à Drummondville. Voilà, ainsi s'achève cette émission, les paractualités du jour sur Canal M en ce 7 décembre 2016. Merci à mon équipe, merci à vous d'être là. C'était Clotilde Seille au micro de Canal M qui vous souhaite une excellente journée et qui vous dit à demain, 11h30.